Bonsoir. À Faire Force commune de Maluku, le porte-parole du gouvernement central, Lambert Mende, a affirmé que les enquêtes sont en cours pour élucider cette affaire. Il a dit jeudi dernier, lors d'un point de presse à Kinshasa, d'après lui, 421 corps ont été enterrés le 19 mars dernier au cimetière de Fulafula, dans la commune de Maluku, et non 425, comme annoncé avant. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 13 avril 2015. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat André Alain Atundu, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
José Makila, député national de l'opposition et président du parti politique Alliance et travailliste pour le développement. Monsieur Makila, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Pierre Virgence, professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Professeur Pierre Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a affirmé que les enquêtes sont en cours pour élucider l'affaire de la fosse commune découverte à Maluku, dans la périphérie est de la ville de Kinshasa. Il s'est exprimé jeudi 9 avril dernier lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. D'après lui, 421 corps ont été enterrés le 19 mars dernier au cimetière de Fulafula dans la commune de Maluku et non 425 comme annoncé avant. Berry Luchaka revient sur les détails.
Si en ce début du mois d'avril, lorsque la population constate d'abord les mouvements suspects des camions, puis hume les odeurs nauséabondes, tout de suite, les habitants saisissent la MONUSCO pour dénoncer ces odeurs fétides qui se dégagent à Maluku. La mission onusienne a à son tour saisi le procureur de la République lui demandant d'ouvrir une enquête sur ce dossier. Selon le gouvernement, ce sont des indigents gardés longtemps à la morgue centrale de l'hôpital général de référence de Kinshasa et inhumés par l'hôtel de ville de Kinshasa sur demande de la direction de la morgue. Et les réactions commencent à s'enregistrer. Les ONG de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement d'ouvrir des enquêtes pour que lumière soit faite sur ce dossier. L'Azado a même exigé l'exhumation des corps pour établir les circonstances dans lesquelles ces personnes sont décédées. Les membres socialistes du Parlement européen en séjour à Kinshasa ont aussi lancé le même appel. Les vice-premiers ministres belges et ministres de la coopération au développement, Alexander De Croo, a accepté mardi 7 avril de débloquer 1,5 million d'euros en faveur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour appuyer les enquêtes des autorités congolaises. Le gouvernement belge estime que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pourrait assister les autorités congolaises dans l'enquête, entre autres par l'interrogation des témoins. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a souligné que cette découverte pose des très nombreuses questions auxquelles la population congolaise et la communauté internationale sont en droit d'attendre des réponses. De son côté, le ministre des Médias, Lambert Mende, affirme que les enquêtes sont en cours. La MONUSCO, pour sa part, s'est dite décidée à accompagner la mission d'enquête diligentée par les autorités congolaises pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Merci Berry Franklin Luchaka. André Alain Atundu, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Quelle lecture vous faites d'abord de cette affaire de fosse commune de Maluku?
Merci madame. La lecture que j'en fais, c'est que l'ennemi de notre démocratie et de la vérité, c'est l'obscurantisme démocratique. c'est l'ignorance et la méconnaissance des lois, et enfin la mauvaise foi. La mauvaise foi ou la méconnaissance des lois commence par la personne à saisir. Lorsqu'une action est mal dirigée, au lieu d'interroger le gouverneur de la ville qui a dans ses compétences l'organisation des cimetières et des enterrements, donc on s'adresse au procureur général, et si d'aventure celui-ci dit qu'il n'est pas compétent et que c'est elle, on commence à mettre en doute la bonne foi des autorités nationales.
Alors, quand vous parlez de l'ignorance, vous ciblez la MONUSCO qui a saisi le procureur ?
Je dis l'ignorance et la méconnaissance. Si la MONUSCO a saisi le procureur plutôt que de s'adresser à l'hôtel de ville, eh bien, je crois que c'est un cas type, n'est-ce pas ? Ce que je voudrais dire, c'est que il y a en 2013, n'est-ce pas, au mois de mai, avec le concours et l'apport de la MONUSCO, le ministère de l'Intérieur a mis à la disposition de l'opinion, des autorités administratives, un vade-mecum appelé guide à l'usage des autorités territoriales. Et là-dedans, il est détaillé les attributions de la ville. Eh bien, parmi les attributions de la ville, au numéro 11, la 11e attribution de la ville, c'est l'organisation et la gestion des pompes funèbres et des cimetières. 12, la gestion des morgues. Il va même jusqu'à spécifier en la matière la compétence des chefferies. Eh bien, l'organisation, la gestion des cimetières, de l'entité et organisation des pompes funèbres relève de la compétence des chefferies aussi. Alors, si on connaissait cette réalité des choses, eh bien, on n'en serait pas arrivé là. Alors, je suis tenté de croire qu'il n'y a pas que le Congolais qui ne lise pas quand on veut leur cacher quelque chose, mais apparemment, d'autres aussi partagent cette ignorance.
Alors, il y a 7 fosses communes qu'on découvre à Maluku, avec 421 corps enterrés ensemble dans cette fosse commune. Comment on peut expliquer cela ?
La fosse commune n'a pas été découverte. L'opinion a été alertée par une odeur nauséabonde, comme l'a dit votre présentateur. Eh bien, c'est l'hôtel de ville qui a vite fait de rassurer le gouvernement en disant qu'il s'agissait d'une fosse commune où étaient enterrés les indigents. Donc, c'est l'autorité compétente qui a révélé. Mais, on se pose la question, mais pourquoi cette autorité n'a pas dit avant ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question de connaître le nombre de chéguets qu'il y a en ville ? Parce que si un chégué meurt, on dira, bon, est-ce qu'on se met...
Mais est-ce qu'il fallait attendre que la population sente ces mauvaises odeurs pour venir alerter et dire que non, il y a une fosse commune quelque part ?
Ça c'est tout à fait normal, parce que c'est tout à fait une interrogation légitime de la population. Mais...
Pourquoi ne pas prévenir avant de procéder à ce genre d'enterrement ?
Non, mais chaque fois, c'est coutumier. Chaque fois, alors dans ces conditions, il faudrait alerter chaque fois l'opinion.
Mais on ne parle pas des enterrements antérieurs.
Mais pourquoi on n'en parle pas ? C'est ça qui remet la chose ou la réalité à sa vraie dimension. Il faut savoir que, comme l'a dit ce vade-mecum, l'hôtel de ville a parmi ses prérogatives la gestion des morgues, l'organisation des cimetières et des enterrements. Et chez nous, l'enterrement des indigents, eh bien, c'est...
C'est les enterrer ensemble dans une fosse commune.
Mais c'est ça. C'est cela.
Mais la loi...
En entourant chacun d'un linceul pour lui sauvegarder un minimum de dignité. Mais ceci dit, mais comme l'a dit le porte-parole, ceci pose quand même un problème de société. La perte d'une valeur fondamentale qui faisait la fierté et la particularité de l'Africain, la solidarité familiale. On ne peut pas abandonner son frère, même s'il est mort.
Toutes ces personnes ont été abandonnées.
Posez d'abord la question, c'est à partir de quand que datent ces nombres ? Est-ce que vous connaissez le nombre
de... C'est à partir de quand, monsieur Atundu?
Je ne suis pas gestionnaire de la morgue. Je ne suis pas gestionnaire de la morgue. Voilà. Il faut poser la question à qui de droit et une personne compétente. Moi, je ne sais pas. Je réfléchis à haute voix.
Mais est-ce qu'on peut garder 421 corps dans une morgue, à la morgue centrale, lorsqu'on sait que la capacité est de 300?
Mais 300 corps peuvent être gardés là-bas. Il ne vous est jamais arrivé de passer à la morgue et de sentir l'odeur nauséabonde, justement à cause de la surpopulation? Ce sont là des réalités.
On entasse les corps les uns sous les autres.
Oui. Et malheureusement, cela dénote d'une méconnaissance des réalités que nous vivons. Et lorsque, en désespoir de cause, en son corps défendant, l'autorité urbaine dit, eh bien, on va désengorger la morgue, on a fait tout un problème. Et je crois que ce qui est important ici, c'est l'intention malveillante, cachée, mais néanmoins apparente.
Merci, monsieur Atundu. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure. José Makila, député national de l'opposition et président du parti politique Alliance des travaillistes pour le développement. Quelle est votre lecture à vous de cette affaire de Maloko?
Merci, madame, pour la parole. Je commencerai par présenter mes condoléances à toute la population congolaise, parce que l'opposition républicaine a décrété un deuil de 3 jours, un deuil national. Madame, je vais commencer par m'indigner, l'indignation, de la manière avec laquelle la majorité kabyliste a traité les corps de nos frères, tout en ignorant. Mais ça m'étonne. D'abord, je suis très mal placé pour discuter ce soir avec un aîné que je respecte beaucoup, mais qu'il me pardonne, lui en tant que personne. Je dois le respecter parce que c'est mon grand frère, mais en politique, la politique, il est de la majorité. Moi, je suis de l'opposition. Qu'il souffre que je lui dise la vérité ce soir. Monsieur Atundu parle de l'ignorance, la mauvaise foi et la méconnaissance de la loi. Qui est ignorant? Mais c'est la majorité. Parce qu'il y a une loi de 11 avril 1957 qui veut qu'en milieu rural, les tombes soient séparées de 1 mètre et en milieu urbain de 30 cm. La loi existe. C'est dommage qu'un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dise aujourd'hui devant l'Assemblée que la loi est obsolète. Non, la loi est la loi. La loi ne peut être changée s'il y a des amendements ou il y a une nouvelle loi. Mais tant qu'il n'y a pas une loi, une ordonnance qui abroge cette loi, la loi reste en vigueur. Mon aîné en face est juriste, il le sait. Et qu'un professeur juriste dise que la loi est obsolète, non. La loi reste la loi. Des deux, madame, qui est ignorant? Mais c'est la majorité qui est ignorante. Il y a une loi, on ne peut pas entasser les gens dans une fosse au jour d'aujourd'hui, à moins que ce soit une situation exceptionnelle comme la guerre. Vous prenez vos compatriotes congolais. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire s'ils sont de la majorité ou de l'opposition. Vous les entassez dans une fosse. Et comme si ça ne suffisait pas, ces compatriotes qui manquent de dignité, qui n'ont pas droit à la vie, commencent maintenant à dégager des odeurs. Et je suis content de l'entendre parler. Les habitants, j'ai suivi le reportage. Saisissent la MONUSCO pour des odeurs nauséabondes. Ce sont les habitants environnants. Madame, au jour d'aujourd'hui, une loi existe, obsolète qu'elle soit. Vous vous donnez le privilège d'entasser les Congolais comme des rats dans une fosse. Et quand vous venez devant le Parlement, vous vous pavanez en disant on n'a pas besoin d'argent de celui-ci ou de celui-là pour m'aider. Nous avons dit tout simplement qu'on n'a pas respecté le Congolais, même s'il est mort.
Monsieur Atundu vient de dire que les indigents sont enterrés de cette façon.
Madame, qui est indigent? Parce que j'ai la liste ici, on ne peut pas parler en vain. On dit ici les indigents, ils sont. Nous parlons bien du date du 21, non, du 19 mars 2015. Les indigents, 34. Mais ils sont identifiés. Est-ce que l'hôtel de ville, parce que si ça va mieux, non, c'est le président de la République, grâce à lui, la magnanimité du chef de l'État. Quand ça va mal, non, c'est l'hôtel de ville. Ok, l'hôtel de ville qui dit indigent 34, ne sont-ils pas identifiés? Il dit encore, des corps non identifiés, 64 non identifiés. Donc on les a ramassés dans la rue, et les morts-nés et fœtus, on dit bien, morts-nés et fœtus. Pourtant, il y a une différence entre mort-né et un fœtus. Il y a une différence. 300, comme par hasard, en 3 mois, 300 fœtus. Nous savons comment on enterre les fœtus et les morts-nés. Nous le savons, tout le monde le sait. Donc, il faut qu'il faille prendre ces fœtus ou morts-nés, les 300, qu'on n'a jamais vu les mamans. Les indigents qui sont identifiés et qu'on peut bien retrouver les familles, leur famille pour dire, écoutez, vous ne venez pas chercher vos corps, nous allons les enterrer. Mais de quelle manière? Aucune famille, aucun communiqué n'est passé ni à la RTNC, qui est devenue un domaine privé de la mouvance présidentielle. Les corps non identifiés, qu'est-ce que cela veut dire? Corps non identifiés, vous les avez ramassés dans la rue. Mais nous, nous disons tout simplement l'opposition. Nous savons qu'on a tiré, sur nos militants à bout portant. Et c'était vu même sur France 24. Hein. Moi-même, j'étais sur le terrain.
Et vous vouliez lier les événements mars
dit, on dit sans embâge que ce sont nos militants.
Vous avez des preuves, M. Maquillard,
nous avons des preuves parce que France 24 avait montré. Les images sont là. Les policiers, enfin le militaire déguisé en tenue de policier, tiré à bout portant.
Mais on avait le bilan de ces événements-là.
Madame,
il y avait
madame,
pas
le bilan,
400 morts.
Qui vous dit, qui vous a donné le bilan?
Le porte-parole du gouvernement.
Ah oui, encore lui, le porte-parole du gouvernement. Est-ce que ce dossier a été traité au niveau du gouvernement? Est-ce que le gouvernement avait répertorié tous les morts? Arrêtez, madame. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Est-ce que tout ce que M. Mende donne comme compte rendu vient du gouvernement?
Merci, José Maquillard. Je veux vous redonner la parole.
Oui, c'est le même temps. Vous,
Vous avez le même temps. Vous avez même dépassé de quelques secondes, M. Maquillard. Je vous redonne la parole.
Oui.
Professeur Pierre Virgence, professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Comment vous analysez cette situation?
Ben, je l'analyse comme étant un dramatique exemple de la méfiance d'une partie très importante de la population du Congo et de beaucoup d'observateurs de la vie politique vis-à-vis des institutions congolaises. Le représentant de la majorité signalait que dans une démocratie, effectivement, il faudrait s'adresser aux responsables, et le problème, c'est que pour beaucoup de gens, au Congo, ben, ils n'ont pas encore la preuve que le système est démocratique. Et donc, beaucoup de gens se méfient des institutions. Effectivement, il a posé une bonne question. Est-ce que les gens, la population du Congo, a l'impression de vivre en démocratie? Et c'est pour ça que les autorités, comme le porte-parole du gouvernement, ont une légitimité qui est mise en cause. Le problème, c'est que, pour le moment, tout le monde soupçonne effectivement, à part les porte-paroles officiels de la majorité, uniquement d'ailleurs quand ils sont face à un micro, parce que dès qu'ils ont le dos tourné du micro, eh bien ils commencent à dire autre chose, mais ces gens-là disent effectivement très probablement, les morts sont le fruit de massacres qui ont eu lieu en janvier. On n'en est pas sûr du tout, on n'a aucune preuve de ça. Je veux dire, pour le moment, on est dans l'incertitude totale. On n'a aucune idée. Les explications données par l'hôtel de ville ne sont pas complètes, ne sont pas toutes crédibles, mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont fausses. Elles peuvent être crédibles. Le fait d'enterrer les gens la nuit de peur, de fâcher la population, ça paraît incroyable, mais en même temps c'est possible, ça peut arriver. Et on est tellement prêt à accuser cette majorité d'à peu près tous les maux que, à la limite, on l'accuse d'une chose que peut-être elle n'a pas fait. Et ce qui est impressionnant, c'est la difficulté de croire les représentants de la majorité quand ils parlent, les représentants institutionnels quand ils parlent, et lié à ça, la difficulté quand même de fabriquer un récit autre. On ne parvient pas quand même, malgré cette méfiance, à expliquer d'où viendraient ces 300 morts, pourquoi ils auraient été gardés si longtemps. pourquoi ils auraient été éliminés d'un seul coup et pas un à un, pourquoi on a enterré tout le monde dans une seule fosse commune, alors que n'importe qui a déjà vu un corps se transformer après la mort, sait bien que si on veut éviter des odeurs, ben, il faut les enterrer dans des endroits différents, et que si on a plusieurs semaines, plusieurs mois devant soi, on peut les enterrer loin et les disperser. Et je dirais, là, il y a une série de questions logistiques, mais organisationnelles aussi, mais surtout, des questions de confiance qui se posent entre une grande partie de la population et les institutions au Congo. Et c'est pour ça qu'effectivement beaucoup de Congolais soutiennent l'idée d'une enquête, d'une commission qui garantirait une neutralité. Mais de nouveau, hein, comme le signalent beaucoup de gens, comment garantir la neutralité dans un pays où la méfiance vis-à-vis des institutions est telle que toute parole est soupçonnée d'être subjective.
Alors, professeur Pierre Virgence, une enquête est en cours pour élucider, pour tirer au clair cette affaire. C'est une enquête diligentée par le procureur de la République. Il y a, de l'autre côté, il y a des ONG locales et l'Union européenne qui demandent une enquête indépendante. Faut-il attendre les résultats de l'enquête menée par le gouvernement congolais ou il faudrait effectivement qu'il y ait une enquête indépendante mixte?
Oh ben, écoutez, en tant que professeur dans une université du Nord Kivu, je peux vous dire que la population a souvent plus confiance dans les institutions internationales que dans les institutions nationales au Congo. Et ça, c'est dommage, et c'est un drame d'ailleurs pour le pays. Et donc, si on veut que les résultats de la commission soient crus par la population, eh bien, il faudrait effectivement accepter une enquête internationale. Mais en même temps, je voudrais aussi ajouter sur l'interpellation du représentant de la majorité l'étonnement que j'ai. Je dirais, on peut très bien porter plainte et demander au procureur de résoudre le problème de l'hygiène publique évidente. Je veux dire, s'il y a des corps qui sentent mauvais, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'hygiène publique. Et ça veut dire que l'hôtel de ville a fait une faute grave en termes d'hygiène, ne serait-ce que cela. Pour en enterrant autant de corps dans une même fosse. Je dirais, là, il y a raison, je dirais déjà, à poursuivre les responsables de l'hôtel de ville, si c'est bien ça qui s'est passé. Et si c'est plus grave, alors il y a évidemment encore plus de raisons. Mais c'est vrai, l'enquête, je dirais, c'est tout le problème, de nouveau, de la confiance dans les institutions. Et on voit bien que la plupart des Congolais se méfient des institutions et des enquêtes institutionnelles. Ce n'est pas propre au Congo, hein. On retrouve aussi ce genre de méfiance dans d'autres pays qui sont mal lotis sur le plan institutionnel. Je pense notamment à la République d'Haïti, où à un moment donné, un gouvernement avait annoncé que l'enquête se poursuivait. Et du coup, à Haïti, maintenant, quand on dit l'enquête se poursuit, ça veut dire que l'enquête n'avance pas du tout. Et les Haïtiens ont retourné l'expression, et je crains effectivement qu'au Congo maintenant, les gens ne se disent « Ah ben si le gouvernement dit qu'il fait une enquête, merci, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête ». Et je crains que la méfiance soit telle qu'effectivement ce soit contre-productif.
Merci professeur Pierre Vigeant, Sandra Alain. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï Occidental.
Pourquoi les gouvernements, lors de l'enterrement de ces 421 personnes, il n'y avait même pas un communiqué de presse? Mais juste après la découverte que le gouvernement arrive à éclaircir l'opinion sur la fosse commune, pourquoi attendre la pression du peuple et de la communauté internationale?
Bon, c'est parce que l'opinion, disons, l'odeur nauséabonde et la rumeur autour de cette fosse a mis en mal la sérénité de l'opinion. Et le gouvernement, les autorités compétentes ont le droit, le devoir de sécuriser la population, de leur dire, voilà, ça se passe normalement comme ceci. Cette fois-ci, vous avez eu vent à cause des odeurs nauséabondes, mais il y a eu 3, 4, 5, etc. Et ça continue. Donc ça c'est tout à fait normal. Le gouvernement a répondu en ce moment-là pour donner suite à une interrogation légitime de l'opinion.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le professeur Virgence par rapport à l'hygiène politique? Une faute grave commise par l'hôtel de ville, enterrer les gens dans une fosse commune et puis des odeurs nauséabondes qui indisposent la population.
Je pense d'abord qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Le professeur a bien parlé de problèmes d'hygiène publique et ça n'a rien à voir avec toutes les suspicions sur les événements du 19 et du 20 janvier. Donc ici, et je pense que le professeur n'a pas dit que ça, le professeur a regretté l'absence de confiance des Congolais dans leurs institutions. Et je veux dire, c'est un manque de confiance injustifié. Parce que l'objectivité, la neutralité ne sont pas l'apanage des organisations internationales. Et elles ne se sont pas particulièrement illustrées ici chez nous. Lorsque on a tué Lumumba, mais aucune organisation internationale, même par la suite. Lorsque il y a eu cette fameuse affaire du massacre, entre guillemets, de Lubumbashi, on n'a pas entendu de voix discordantes, n'est-ce pas? Parce que on avait d'autres objectifs. Et même plus loin de chez nous, lorsque il y a eu, ce qu'on a appelé le charnier des Timișoara en Roumanie, des organisations internationales ne se sont pas particulièrement émues du sort de Ceausescu, du sort de Mobutu, du sort de Lumumba. Donc, je pense que le professeur a raison de regretter que la population congolaise n'ait pas confiance en ses institutions. Le procureur général de la République, ce n'est pas un magistrat. C'est le représentant d'un corps qui a comme mission de veiller à la bonne application de la loi dans notre pays. Et donc, s'il est sollicité, il est normal qu'il puisse commettre certains magistrats, n'est-ce pas, pour aller faire des enquêtes, etc.
Alors, une enquête internationale n'est-elle pas vraiment nécessaire pour éviter toute suspicion, monsieur Atundu?
Je dirais que c'est superfétatoire. Parce que ce n'est pas la confiance envers les institutions qui est en jeu, c'est la bonne foi des gens qui prétendent s'interroger et qui manifestent une certaine indignation en amont au lieu de régler le problème en aval.
Alors pourquoi on a enterré ces gens la nuit? Le ministre de la Justice a justifié ça cet après-midi devant les députés, disant que la population avait attaqué lors des enterrements précédents ces gens qui procédaient à ces enterrements-là. Est-ce que vous avez déjà appris une histoire du genre?
Je veux même abonder dans le même sens. Le gouvernement de la République doit toujours prendre des dispositions lorsque un acte risque d'énerver la population. En 1971, les étudiants de Novalium étaient enrôlés dans l'armée. Une partie était au camp CETA et on devait les transférer au camp Tchati. Eh bien, les autorités nationales ont pris la précaution de transférer ces étudiants au moment où la ville était presque déserte. En ce moment-là, souvenez-vous, on travaillait, il y avait deux vacations, et donc entre 13h et 15h, c'était le moment où la ville était vide. Et c'est cette période-là, c'est ce moment-là que les autorités ont choisi pour transférer les étudiants, pour éviter un énervement de la population.
Merci, M. Atundu. M. Makila, on va prendre pour vous, avant de réagir au propos de M. Atundu, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Massissi, dans le Nord Kivu.
Moi, ce cadet depuis Massissi, au Nord Kivu, je pense que l'enterrement de ces personnes est une aide, car leur famille n'a pas les moyens, le gouvernement peut aider.
Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement peut venir en aide à toutes ces familles, aux familles qui n'ont pas de moyens pour enterrer leurs frères, sœurs, enfants?
Pour répondre directement à mon frère de Massissi, il faut savoir que le gouvernement doit mettre sur pied une politique sociale. Nous ne sommes pas là pour être aidés par le gouvernement. L'argent appartient d'abord au peuple congolais. On vous aide si ça ne vous appartient pas. mais c'est votre argent, vous avez le droit. Et quand vous avez le droit, ce n'est pas une aide. Enlevez ça de votre tête, les peuples congolais. Il ne faut pas attendre, oui, tel a fait ceci, telle maman a fait ceci, le président... Non, non, il n'a, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du Congolais. Donc, enlevez cela de votre tête. Mais je reviens sur la réaction du professeur. Mais madame, c'est tout à fait normal, pourquoi nous avons la, nous avions la CI aujourd'hui, la CNI. Dans un pays normal, où un gouvernement fonctionne normalement, c'est le ministère des Affaires intérieures qui organise les élections. Mais pourquoi nous avons mis sur pied une structure à appui à la démocratie qui s'appelle la CENI ou la CI à l'époque? C'est parce qu'on ne se fait pas confiance, c'est tout à fait normal. Au jour d'aujourd'hui, même le ministre a eu le culot de le dire, même si on le sait. C'est lui qui donne des injonctions au parquet, notamment au procureur général. C'est dans ses prérogatives, il a dit. Mais quand un gouvernement donne des injonctions au procureur général, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette enquête-là? Madame, l'opposition est claire comme l'eau de roche. Et c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Nous voulons une enquête internationale. Pourquoi le gouvernement ne veut pas d'une enquête internationale? Nous savons qu'un fœtus n'a que de cartilage. Il n'y a pas d'eau ou os, comme si vous voulez. Il n'y a que des cartilages. 300 fœtus. Donc, si nous prenons le moyenne de 3 mois de 100 fœtus par mois, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Pourquoi
des
on
différentes
terrain...
morts à travers la ville.
Et puis, regardez la honte. L'État n'existe plus. L'État n'existe plus. Un État qui dit qu'il a peur de sa propre population parce que nous allons faire une œuvre utile, que l'État, fort de ses lois, dit, je dois enterrer. Non, on a peur de la population. Où a-t-on vu l'État avoir peur de la population quand il doit exercer ses prérogatives légaliennes? Où a-t-on vu ça? L'État congolais a peur de sa propre population. L'État n'existait plus. Madame, je vais plus loin.
Alors, le premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, pour lui, cette situation est amplifiée à cause de l'absence, il s'adresse à vous, députés, et alors, oui. À cause de l'absence d'une loi sur l'immigration, le coût élevé des funérailles et l'abandon des enfants par les jeunes filles.
Madame, il y a des lois en vigueur. Il y a une loi qui a été promulguée le 4 septembre 1909. Cette loi est en vigueur. Il y a une loi encore en vigueur dont j'en ai parlé tout à l'heure, le 11 avril 1957. Avant d'inhumer, il faut avoir un certificat de décès. Est-ce qu'on peut nous montrer aujourd'hui le certificat de décès de tous ces gens qui ont été inhumés? Et l'inhumation, même des fœtus, ou des morts-nés. Mais c'est une monnaie courante. Ça se fait tous les jours dans des hôpitaux, derrière les hôpitaux, ou par l'incinération. Ça se fait. Mais aujourd'hui, on nous donne des arguments comme quoi, oui, il y a eu 300 fœtus et morts-nés. Madame, nous voulons, si le gouvernement ne se reproche de rien, au fait, gouvernement, non, disons les choses très clairement. Si le pouvoir Kabila n'a peur de rien, mais qu'on laisse une enquête internationale venir nous départager. Parce qu'aujourd'hui, nous nous constituons en défenseurs du peuple. N'oubliez pas, madame, que parmi ces gens, certainement, il y a des gens qui avaient jeté leur dévolu sur l'actuel chef de l'État. Peut-être qu'ils sont morts parmi ces gens-là. Parce que quand vous voyez la plupart des femmes qui sont violées, qui sont tuées à l'Est aujourd'hui, ce sont des gens qui avaient porté leur dévolu sur le chef de l'État en 2006, en 2011. Aujourd'hui, nous ne discutons pas parce qu'il s'agit de l'opposition, mais nous voulons que la vérité soit au grand jour.
Merci, Monsieur Makila. Professeur Pierre d'Urgence, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
C'est Bruno Talunga depuis Lubumbashi au Katanga. J'aimerais savoir pourquoi le gouvernement de la République doit lancer une enquête de quelque chose qui était officiel. Donc, c'est une contradiction de fait. Parce qu'avant d'enterrer, il devait avoir tous les renseignements possibles sur ses indigents.
Alors, professeur, vous pensez comme cet auditeur qu'il y a une certaine contradiction de la part du gouvernement congolais?
C'est possible qu'il y ait une contradiction, mais c'est possible aussi que ce soit explicable. On sait que beaucoup d'indigents déchégués qui se promènent à Kinshasa n'ont pas nécessairement des documents d'identité sur eux, et donc on sait qu'il y a une série de gens qui, s'ils meurent, ils sont emmenés à la morgue de cette grande ville qui est quand même, hein, rappelons-le, la plus grande ville francophone du monde. Eh bien, beaucoup de gens arrivent là et n'ont pas d'identification possible. Donc, il n'est pas impossible qu'on n'ait pas de documents pour identifier tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ce que, de toute façon, je dirais, ce drame nous rappelle, c'est la désocialisation. Le représentant de la majorité évoquait le fait que les gens aimaient enterrer leurs morts au Congo. On rappelle quand même que il y a maintenant à Kinshasa et même à Lubumbashi, mais surtout à Kinshasa, des jeunes qui sont en déshérence, qui ont perdu leur famille, qui ont été rejetés par leur famille pour des raisons essentiellement économiques, sociales, et donc c'est un drame du fait que cette solidarité familiale qui existait avant est en train de se perdre dans la grande ville. Ça, c'est un élément qui explique peut-être aussi le fait qu'on n'a pas nécessairement une identité possible pour tout le monde.
Professeur, le ministre de la Justice, je vous pose d'abord cette question. Il y a le ministre de la Justice qui, devant les députés cet après-midi, voudrait qu'on parle des tombes communes plutôt que de fosses communes parce que, selon lui, fosses communes supposent exécution, massacre.
Oui, ça c'est un jeu de mots. Quand un gouvernement préfère qu'on parle d'austérité plutôt que de rigueur, je dirais, c'est la même chose. Je dirais, on parle bien du même phénomène. Ce sont bien des fosses où on a enterré des gens ensemble. Et le mot fosse commune a été aussi utilisé pour des victimes de massacres, mais la fosse commune était utilisée dans le système européen du 19e siècle, à l'époque où justement l'industrialisation provoquer des drames humains innombrables sans qu'il y ait de massacre et les pauvres étaient enterrés dans la fosse commune, comme on disait effectivement. Donc ce n'est pas du tout un terme uniquement guerrier, comme le ministre veut le faire croire. Et changer de nom ne change rien au drame, je dirais. Et il faut qu'il y ait une enquête, il faut que cette enquête soit crédible. Et pour le moment, vu le rapport des institutions congolaises à sa population, une enquête interne semble peu crédible aux yeux de la population, effectivement.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, selon vous, pour éviter ce genre de situation à la longue?
Moi, je pense d'abord qu'il faut apprendre à communiquer. Si la version de l'hôtel de ville est vraie, quand une autorité doit agir et que la population ne l'accepte pas, eh bien, il faut apprendre à dialoguer. Et l'autorité doit apprendre à entrer en contact avec la population et parfois, effectivement, prendre des mesures, même si la population ne les souhaite pas, ces mesures. Donc ça, je pense que il n'y a pas à sortir de là. Je veux dire, on est obligé d'apprendre à communiquer dans tous les systèmes institutionnels. Et même si les gens ne veulent pas qu'on enterre des gens tout près de chez eux ou ne veulent pas qu'on en enterre en masse, il faut alors trouver des solutions. Je dirais. On n'est pas obligé d'enterrer 300 personnes à côté d'un village où habitent des gens. Effectivement, le territoire de la République démocratique du Congo est suffisamment grand et avec un tout petit peu d'organisation, ce n'est vraiment pas impossible d'enterrer des gens. Alors, par rapport à l'hypothèse qui était émise par beaucoup de l'enterrement de gens qui auraient été assassinés le 19 janvier, enfin le 20-21 janvier, eh bien, il faut quand même dire que ce serait étonnant aussi qu'on ait gardé à la morgue pendant 2 mois des corps alors que d'autres morts arrivent régulièrement. Moi, pour le moment, je suis simplement dans l'incompréhension et je pense que le gouvernement congolais, il gagnerait à ouvrir complètement son enquête aux enquêteurs internationaux, comme d'ailleurs, je pense, Mobutu aurait eu intérêt en 1991 à ouvrir une enquête internationale à Lubumbashi parce qu'on aurait vu que peut-être les massacres n'avaient pas eu lieu. Parce que ça, on sait que c'est un vrai problème de beaucoup d'historiens au Congo. On n'est pas sûr que les massacres de 1991 ont eu lieu à Lubumbashi.
Merci, professeur Pierre Virgence. Andrala Atundu, le gouvernement congolais refuse l'aide de la Belgique pour mener cette enquête. Pourquoi, selon vous, pour le ministre, le Congo est capable de se prendre en charge?
Pourquoi pas? Mais je voudrais revenir.
Alors que quand il y a eu l'affaire d'Ebola, on a demandé l'aide à la communauté internationale.
Oui, mais c'est la solidarité internationale peut jouer.
Mais pourquoi cette fois-ci le gouvernement refuse l'aide de la Belgique?
Mais pourquoi la Belgique ne vient pas nous aider à mater les Kuluna, n'est-ce pas, à nettoyer toutes les fosses communes? Non, nous avons une certaine responsabilité. C'est notre souveraineté. Même si certains sont gênés d'évoquer la souveraineté de la République pour revendiquer un droit, eh bien, nous ne sommes pas gênés. Nous sommes souverains. Et notre première obligation, c'est d'assumer cette souveraineté avec ses paradoxes. N'est-ce pas? Alors, ceci dit...
Qu'est-ce qu'il faut pour éviter ce genre de situation, des suspicions sur des forces communes, à gauche, à droite?
Le problème, c'est la bonne foi. Il faut que les gens qui prétendent mettre en doute aient un doute positif. Un doute qui contribue à la manifestation de la vérité. Pas un doute pernicieux dont l'objectif est d'embrouiller la manifestation de la vérité. On a comme l'impression que le concept indigent a été inventé pour les situations, une situation particulière au Congo. Mais pourquoi y a-t-il donc des restos du cœur en France, à Paris?
Un indigent n'a pas droit à un cercueil.
Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas... pourquoi il y a un resto du cœur?
L'indigent n'a pas droit à un cercueil.
L'indigent a droit à un minimum de dignité que lui garantit les autorités nationales.
Un cercueil, c'est le minimum?
Ce n'est pas le minimum, c'est le seuil. C'est le linceul. Parce que le musulman n'enterre pas dans le cercueil. Donc le cercueil, ce n'est pas le critère nec plus ultra.
Un indigent n'a pas droit à une tombe à lui seul?
C'est une question de gestion. La loi a dit, c'est au gouvernement, c'est à la ville et à la chefferie de gérer.
Mais bien, dans la loi, il est dit que chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée.
Madame, vous traitez de ces problèmes qui relèvent du drame de notre société comme d'un cas d'école. Ce n'est pas un travail pratique. Ce sont des drames que quelqu'un...
Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous allez conclure, M. Atundu.
D'après, d'ailleurs, nos traditions, quelqu'un qui n'a pas de sépulture, qui n'a pas été pleuré par les siens, est obligé à errer dans le monde.
Donc, conclusion?
Conclusion, c'est que le gouvernement de la République a eu raison d'informer la population sur la réalité de cette odeur nauséabonde. Deuxièmement, il faut que les Congolais croient en leur gouvernement, en leurs institutions, parce que par le passé, les institutions internationales n'ont pas fait montre d'une objectivité
exemplaire. Merci, M. Atundu. José Makila.
Oui, madame, je suis désolé. Le Congo n'est pas un pays musulman. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes des Bantous et nous avons nos coutumes. On doit enterrer un mort dans un cercueil. Je suis désolé, on n'est pas des musulmans. Deuxièmement, le président Atundu parle de la souveraineté. Mais c'est ça aussi la souveraineté. Le respect de nos lois. La loi n'autorise à personne de mettre les corps les uns sur les autres. Ce pouvoir n'a aucun respect vis-à-vis du peuple congolais. Même dans son dernier retranchement, n'a aucun respect. Au fait, je vais dire au professeur qu'il fasse attention, parce qu'il y a beaucoup de caches d'armes ici, à Kinshasa. C'est comme, il peut y avoir aussi des chambres froides cachées. Parce qu'à chaque fois, quand on tire sur quelqu'un, on reprend le corps. On amène ce corps où? Nous l'avons déjà vu, on ne parle pas en vain. Nous disons que ces corps-là, parmi ces corps, ce sont nos corps du 19 au 25, les événements de janvier. Nous sommes sûrs et certains, si ce n'est pas ça, nous mettons le gouvernement au défi, il faut une enquête internationale. Mais pour citer... Nous avons dit dans nos déclarations, l'opposition dans tout son ensemble, nous donnons 2 semaines au gouvernement pour qu'il y ait une enquête internationale. Sinon, toute la population à travers la République, nous allons nous mettre debout et on va nous enterrer dans des fosses communes.
Merci, M. Makila, professeur. Voilà. En 30 secondes, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que on parlait d'enquête internationale. Il y a quand même eu une commission d'enquête parlementaire en Belgique sur l'affaire Lumumba qui est arrivée à la conclusion que la Belgique était bien responsable de l'assassinat de Lumumba, mais il a fallu effectivement attendre 1999 ou 2000 pour que les rapports soient déposés. Et donc effectivement, c'est seulement 40 ans après l'assassinat de Lumumba que la Belgique a fait son travail.
Merci.
Mais ici, elle est prête à le faire tout de suite et ce serait peut-être mieux pour tout le monde.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.